RPL, votre radio Lorraine.
Votre radio Lorraine.
De Metz, à Thionville, avec RPL, 89.2.
89.2. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-Baptiste Lehup, auteur messin et policier de carrière. Après un premier roman bouleversant sur l'enfance et la fragilité, il revient avec Le Stagiaire de seconde, une comédie d'espionnage pleine d'humour et de suspense où un lycéen en stage se retrouve malgré lui au cœur du contre-espionnage français, deux univers très différents, mais un même regard sensible et vif sur la jeunesse. Bonjour.
Bonjour Géraldine.
Comment allez-vous?
Très bien, merci, malgré la chaleur.
Oui, malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas. Parlons de vos deux livres et de deux univers. Alors, ces deux romans explorent des mondes très différents. Hein. La fin de vie d'un enfant dans le premier, une comédie d'espionnage dans le second. Qu'est-ce qui relie ces deux histoires en apparence opposées?
Eh bien, à part l'auteur, pas grand-chose, pour être honnête. Après avoir écrit le premier roman, qui, comme vous le disiez, est un livre triste, mais en même temps beau, j'ai eu envie de changer complètement d'univers, de style, d'ambiance. Et puis voilà, j'ai eu cette idée de partir sur un stagiaire, un lycéen qui se retrouve dans un monde complètement inconnu pour lui, puis qui finalement s'en sort pas trop mal, avec beaucoup d'humour, et je pense que j'avais besoin de me changer les idées en fait.
D'ailleurs, un petit clin d'œil à nos élèves de seconde qui sont actuellement en stage. Hein.
Exactement, ouais. J'ai eu l'occasion, là j'étais à un salon du livre à Toul samedi dernier, c'est vrai que plusieurs personnes qui passaient se sont arrêtées en disant « Ah, bah, c'est amusant votre titre d'ouvrage, parce que justement j'ai alors certains un neveu, une nièce, un fils, un petit-fils, une petite-fille, en stage de seconde, et ça a permis de nouer quelques contacts assez rigolos. »
Ouais. Alors justement, qu'est-ce qui vous attire dans ces âges charnières? Alors l'enfance pour Titus et l'adolescence pour Rodolphe?
Alors, je pense que tous les âges peuvent être intéressants. C'est un petit peu le hasard qui a fait que je suis parti d'abord sur un roman qui traite principalement d'un enfant de à peine 10 ans. Ensuite, j'aimais bien cette idée du jeune adulte qui se retrouve dans un monde trop grand pour lui. Je trouve que c'est un bon personnage pour une comédie. Mais c'est pas forcément l'âge qui est mon critère d'écriture, puisque dans mon troisième roman que j'étais terminé il y a quelques mois, c'est une autrice d'une trentaine d'années. Alors là, c'est plutôt une étape charnière de son histoire qui provoque l'idée du roman, puisqu'elle perd sa maman. Et dans mon quatrième roman, que je vais bientôt terminer, c'est toute une petite famille. Donc là, tous les âges représentés.
Voilà, des domaines variés. Vous aviez envie pour ce second roman d'un roman plus léger, plus drôle après le premier?
Oui, complètement. Le premier, il est venu un peu tout seul, en fait. Hein. J'ai pas beaucoup réfléchi. Je me suis laissé complètement embarquer. Et une fois que j'avais cette idée d'un enfant qui va mourir et d'un livre qui devait néanmoins être beau, être touchant, et surtout pas négatif ou sombre. L'idée, c'est vraiment, elle a déroulé d'elle-même. Et ensuite, quand je suis parti sur le deuxième livre, là, j'ai vraiment fait le choix de faire quelque chose de drôle et de mettre vraiment de l'humour dans les situations et dans les dialogues.
Alors, dès la première scène, c'est l'explosion de la pyramide du Louvre. Pourquoi un choix spectaculaire?
Je crois vraiment que ce qui plaît au lecteur, c'est quand dès les premières phrases, le ton est donné. J'aime pas les livres qui commencent par de très très longues introductions où on se demande où l'auteur veut en venir, avec une présentation d'un univers ou de personnages. Pour moi, un livre, c'est comme un film. Il faut que dès le début, on soit scotché au siège et qu'on se dise « Ok, je vois ce qui va se passer, et éventuellement même je sais comment ça va finir », parce qu'il y a beaucoup de livres, et les miens sont un peu comme ça, je fais pas dans le twist, vous savez, comme c'est très à la mode dans les thrillers domestiques notamment, on ne dit rien au lecteur, on le balade pendant 300 pages, et dans les 5 dernières lignes, en fait, on vient effacer tout ce que le lecteur croyait savoir. Alors ça, moi, j'accroche pas trop. Moi, je préfère quand, dès le début, on sait ce qui va se passer. Donc là, une explosion à la pyramide du Louvre qui est rayée de la carte, réduite en miettes au fond de la traînée, au fond du trou. Un pauvre stagiaire qui sort de là-dedans sans trop comprendre ce qui lui est arrivé. Et ensuite, on déroule l'histoire. On reprend une semaine plus tôt quand le stage commence. Et puis pendant 300 pages, on se dit comment ça va finir et comment on va faire pour se retrouver sur la scène de départ.
Alors, ça me fait penser un petit peu à Columbo. Vous savez, dès le début du feuilleton, qui est le meurtrier, on se demande comment il va faire. C'est un peu
exactement
le même principe.
Hein. Voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent comme ça. Je trouve que c'est plus honnête que de réserver des informations qu'on ne communique pas et puis de distiller pendant 50 chapitres des informations mensongères pour perdre le lecteur. Je trouve que c'est pas compliqué de perdre un lecteur. Par contre, l'intéresser alors qu'il connaît déjà la fin, je trouve que c'est un sacré challenge.
Alors, Titus affronte la maladie, Rodolphe affronte la DGSI. Alors, qu'est-ce que ces deux personnages disent, selon vous, de la jeunesse d'aujourd'hui ? Ils sont fragiles, ils ont l'humour, ils sont audacieux ?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de fragilité dans les deux cas. Si vous me posez la question du point commun, ce n'était pas forcément réfléchi d'ailleurs. Je pense que ça s'est plutôt construit comme ça, un peu par nécessité. Mais on a d'un côté un garçon de 10 ans qui va mourir et qui est peut-être finalement le plus lucide et le plus courageux de tous les personnages du premier roman. Et dans le deuxième, on a un stagiaire à peine adulte, là, parce que dans mon livre, il a même pas 17 ans. Bon, il est quand même débrouillard, hein, parce que il y a beaucoup de stagiaires de seconde, je pense qu'il n'aurait pas eu son courage ou son à-propos. Donc voilà, je suis conscient que c'est un stagiaire de seconde qui est quand même particulièrement malin, mais voilà, ils partagent tous les deux ce trait de caractère, c'est des personnages forts, courageux, l'un face à la maladie et l'autre face à quelque chose de plus léger, de moins grave, mais d'un aléa qui fait qu'il ne se retrouve pas là où, du tout là où c'était prévu pour son stage. Et là aussi, je pense que c'est un choix plus d'auteur qui est que ça fait du bien d'avoir ce côté positif, d'écrire des personnages qui avancent malgré des obstacles.
En fait, ce second roman vous permet d'explorer ce que le premier ne vous a pas permis de faire ?
Oui, c'est deux mondes vraiment différents, c'est-à-dire que c'est compliqué de mettre vraiment de l'humour dans un livre qui parle d'un enfant qui va mourir. Alors, il y a dans mon premier roman, il y a une forme de légèreté dans l'approche, il y a quelques traits d'humour, parce que je pense que c'est important, même quand on raconte quelque chose de triste et de terrible, de temps en temps de permettre au lecteur d'avoir une petite respiration, un petit sourire, mais je pouvais pas me laisser aller dans le côté humoristique autant que j'ai fait dans le deuxième. Le deuxième, c'est vraiment une comédie assumée.
En octobre, vous allez reprendre votre métier dans la police. Est-ce que votre expérience a nourri votre manière d'écrire ?
Alors oui, tout à fait. Alors peut-être moins dans le premier roman qui est plus lié à des ouais, convictions que j'ai, au fait que j'ai des enfants, alors qu'ils sont heureusement en bonne santé. Mais quand on a des enfants, on imagine vite ce que ça peut être de faire face à une épreuve comme celle-là. Le deuxième livre qui se passe à la DGSI, donc à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est un service de police qui gère le contre-espionnage et l'antiterrorisme. Oui, c'est beaucoup plus lié à mes connaissances dans le milieu du renseignement, même si je n'ai pas travaillé directement dans ce service très parisien et très secret que je décris. Mais bien sûr, oui, par capillarité, par porosité, je sais un petit peu comment ils travaillent et j'ai vraiment infusé beaucoup de mes connaissances dans le livre. Mais normalement, je n'ai pas révélé de secret.
Il n'y a pas de secret, mais peut-être des clins d'œil.
Voilà, il y a des clins d'œil, et puis il y a, même si la situation de base est celle d'une comédie, donc évidemment jamais un stagiaire de seconde n'arrivera à se faire passer pour quoi que ce soit et rentrer dans un service comme la DGSI, c'est oui, une évidence. Mais comme dans toutes les comédies, il faut mettre un peu son incrédulité de côté quand on aborde ce genre de roman, accepter la situation pour en rire, mais pour le reste, le service que je décris est relativement réaliste avec des informations qui sont connues, hein, qui sont diffusées dans la presse, sur le site de la DGSI. Donc le travail, la manière dont ils travaillent, leurs cibles, leurs thèmes sont tout à fait crédibles et réalistes. Ce qui n'est pas du tout, c'est la sécurité de leur contrôle d'accès qui, là, laisse totalement à désirer dans mon roman.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des retours du public concernant ce second ouvrage ?
Oui, bien sûr, j'en ai eu beaucoup. C'est un livre qui est très apprécié. Et notamment, et ça m'a surpris, ça m'a ravi, très apprécié par des gens qui n'ont pas l'habitude de lire des comédies. C'est pas un style très représenté, en fait. C'est assez rare d'écrire des livres dans l'objectif de faire rire. Actuellement, ce qui marche beaucoup, c'est la fantasy, c'est la romance, évidemment tout ce qui est thriller et polar. Et j'ai beaucoup de lecteurs de ces styles-là qui m'ont dit ça nous a fait du bien, on a adoré, c'est très bien écrit, c'est fluide. Et puis surtout, Eh ben, c'est un livre qu'on n'aurait pas choisi, parce qu'on n'aurait pas eu l'idée de choisir un bouquin comme ça qui se passe dans le monde du contre-espionnage, avec un malheureux stagiaire qui se retrouve au milieu. Et j'ai eu voilà beaucoup de remerciements des gens à qui j'ai prêté ou envoyé le livre, et qui, par eux-mêmes, ne l'auraient pas choisi et qui n'ont vraiment pas regretté d'avoir lu.
Et c'est un livre pour tout le monde, pour tous les âges, enfin tous les âges.
Oui. Oui. Tout à fait, c'est un livre pour tous les âges. Alors je pense qu'à partir d'une quinzaine d'années, on saisit vraiment les nuances, et notamment il y a trois personnages sombres dans le livre, puisqu'on parle d'antiterrorisme, de contre-espionnage. Donc il y a trois antagonistes dans le livre, trois méchants, on va dire. Pour saisir vraiment leurs nuances, leurs motivations, je pense qu'il vaut mieux avoir 15-16 ans. Mais pour l'aspect d'aventure, de quiproquo, de rebondissement, voilà, un enfant de 10-11 ans peut apprécier l'histoire.
D'accord. Alors, je voulais aussi vous demander si vous aviez un troisième roman en préparation. Donc, j'ai bien compris que non, puisqu'il est déjà là.
Exactement. Donc, le troisième, il est terminé.
Oui.
En recherche d'éditeur actuellement. Donc, un roman beaucoup plus sombre, là, pour le coup, avec assez peu d'humour, même si j'ai toujours du mal à me retenir de glisser une petite phrase qui peut faire sourire. Mais voilà, plus sombre, un peu plus introspectif. J'ai découvert le terme de métafiction, puisque j'écris sur une autrice qui écrit un livre. Donc on lit à la fois sa vie et le roman qu'elle écrit, et les deux viennent en fait se télescoper. La frontière entre ce qu'elle vit, la réalité, et ce qu'elle écrit, se fracture de plus en plus au fil du livre, et c'est ça qui donne toute l'attention, un peu la noirceur à mon troisième roman.
D'accord. Ça doit être difficile à lire, non ? On arrive à suivre...
Oui, alors on arrive à suivre, d'autant plus que j'assume le fait que, étant donné que l'héroïne du livre, cette autrice qui perd sa maman alors qu'elle était en train d'écrire une sorte d'autobiographie un peu fictionnelle où elle révélait un passé qu'elle inventait, j'assume le fait que le lecteur doit se perdre un petit peu entre la réalité et la fiction, de la même manière que l'autrice elle-même perd pied. Donc c'est totalement assumé, et là aussi, moi je déteste quand je lis un livre, me demander au bout de 20 pages qui est ce personnage dont j'ai tout oublié, parce qu'on m'en a parlé une fois, puis on ne me réexplique plus qui c'est. Moi j'aime quand, en tant que lecteur, j'aime être guidé, j'aime qu'on me facilite la vie, et c'est vraiment ce que j'ai fait dans le troisième roman. Ça veut dire que oui, c'est complexe, oui, bien sûr, la réalité et la fiction viennent s'entremêler, mais c'est pas un souci. Parce que y a un but à tout ça, et que si c'est un peu emmêlé dans l'esprit des lecteurs, bah c'est parfait, parce que c'est emmêlé réellement dans mon histoire.
C'est emmêlé facilement.
Exactement.
On va dire ça comme ça.
Voilà.
Donc un quatrième aussi roman, qui est presque fini.
Et un quatrième.
Ou qui vient d'être fini. Hein.
Voilà, que je suis en train de terminer. Alors maintenant, je vais passer dans les phases de relecture, de correction, de lecture par des premiers, ce qu'on appelle des bêta-lecteurs. C'est un peu comme les bêta-testeurs des logiciels, là, qui essayent les logiciels avant qu'ils sortent. Donc les bêta-lecteurs, ils sont là pour lire le bouquin et puis bah, venir un peu me mettre devant mes incohérences, mes insuffisances peut-être, parce qu'il y a des choses que j'imagine clair et qui ne le seront pas. Il y a peut-être des détails qui m'ont échappé. Hein. C'est le conducteur à l'entrée du tunnel qui devient passager à la sortie du tunnel, des trucs aussi bêtes que ça. Mais il y a voilà, tout un travail de bêta-lecture pour que le livre, une fois proposé au lecteur, soit le plus irréprochable possible.
Et vous avez déjà une idée pour un cinquième roman ?
Alors le problème, c'est que j'ai beaucoup d'idées.
Ah, zut.
J'ai plein d'idées, et là, je vais arriver à la phase où, pendant que les bêta-lecteurs reliront le quatrième, il va falloir que je fasse des choix. Alors, relire les idées que je note à chaque fois qu'elles viennent. Là, j'ai une petite note sur mon téléphone, et puis j'ajoute mes idées. Et puis peut-être en piocher plusieurs, les mélanger, voir s'il y en a qui vont bien ensemble, avec une trame principale, une trame secondaire. Et puis voilà, puis on verra ce qu'il en sort.
On verra, vous reviendrez nous en parler.
Exactement, avec grand plaisir.
Où est-ce que l'on peut trouver tous vos romans ?
Alors mes romans, ils sont sur Amazon, puisque en France, c'est très 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 compliqué de publier des romans. Donc je cherche toujours une maison d'édition à chaque fois que j'écris un nouveau roman. Mais les places sont rares, il y a énormément d'auteurs qui cherchent à être publiés. Et puis il n'y a pas tant de places que ça chez les éditeurs qui ont eux-mêmes des difficultés, notamment en ce moment, où on dit que les gens lisent moins. Alors j'espère que c'est une phase et que les gens vont recommencer à lire, parce que c'est un vrai plaisir et il ne faut pas passer son temps devant des écrans. Il ne faut pas oublier la puissance de l'écrit, notamment sur l'imagination. Et donc mes livres sont sur Amazon.fr, avec mon nom, hein, Jean-Baptiste Leup, L-E-H-E-U-P, j'épelle parce que c'est pas un nom très commun. Et puis de temps en temps, étant donné que je mets mes livres dans des boîtes à livres, un peu partout au fil de mes déplacements, je les mets dans des boîtes à livres pour que les gens puissent les découvrir. Et puis bah, y a un phénomène actuellement de gens qui vont piocher dans les boîtes à livres pour les mettre en vente ensuite sur Vinted ou Le Bon Coin. Donc vous avez des chances de trouver de temps en temps mes livres aussi à tarif réduit d'occasion sur les sites de petites annonces.
D'accord. J'aurais une dernière question. Que pensez-vous des gens qui lisent sur les Kindle, sur les tablettes
Écoutez, moi, ça ne me pose aucun souci. Ouais. Dans les deux cas, j'ai proposé le livre en version électronique. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Il y a des gens qui ont des centaines ou des milliers de livres chez eux, qui ne les lisent pas, qui ne les prêtent pas, qui n'en font rien. Alors, le papier est nécessaire. Il faut qu'il reste parce que le papier, ça ne se modifie pas, ça ne s'efface pas, ça ne se met pas à jour. Donc, ne serait-ce que... Dans un monde où la communication est quand même extrêmement volatile, le papier permet de garder une information sur le temps long. Puis après, c'est sympa aussi à offrir, à regarder, à toucher. La tablette, elle offre d'autres intérêts. Voilà, des gens qui peuvent partir en vacances avec une dizaine de bouquins dans quelque chose qui est épais comme la moitié d'un livre. Et l'autre, la seule petite difficulté, je trouve, c'est de la part des éditeurs qui souvent vendent les livres électroniques presque aussi chers que les livres papier. Alors qu'ils ont évidemment beaucoup, beaucoup moins de frais, puisque le support a été payé par l'utilisateur quand il a acheté sa tablette, sa liseuse. C'est pour ça que moi, mes deux romans, par exemple, ils sont à seulement 5 € en version électronique, parce que je me voyais pas demander 10 ou 15 € à quelqu'un, alors que les intermédiaires facturent beaucoup moins cher la distribution sur version électronique.
Voilà, tout est dit. Merci beaucoup Jean-Baptiste Lehup pour cet échange passionnant. Alors, avec la vie est un voyage que l'on ne fait qu'une fois et le stagiaire de seconde, vous explorez deux univers opposés, mais avec un même fil rouge, la jeunesse, ses épreuves, ses élans. Alors, on vous suivra avec attention, on espère vous avoir encore une fois sur notre antenne pour parler de vos prochains romans, car j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'idées.
Exactement, avec plaisir, à bientôt Géraldine.
À bientôt, bonne journée, au revoir.
Merci vous aussi. RPL.